Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le podcast qui épluche l'identité des Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je m'appelle Viviane Salin, je suis française d'origine asiatique, ma mère est de Hong Kong et mon père d'Indonésie, et je vis à Singapour depuis 2006, installée avec mon mari et nos deux enfants nés ici. Aujourd'hui, pour notre 14e épisode, j'aimerais vous proposer un numéro spécial qui colle à l'actualité, évidemment autour de la pandémie du coronavirus. Comment cela se passe-t-il à Singapour ? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 mars et il n'y a à ce jour toujours pas de confinement. Et pourtant, l'épidémie avait démarré déjà au mois de janvier. Nous étions dans les premiers pays touchés, très peu après la Chine. Aujourd'hui, Singapour compte environ 700 cas déclarés avec 2 décès, mais la situation est toujours à peu près sous contrôle. En fait, fort de son expérience avec le SRAS, l'épidémie a été contenue avec des mesures progressives de mise en confinement sélective ou de fermeture progressive des frontières. Les choses sont allées assez vite. Depuis l'enregistrement qui a eu lieu lundi, nous sommes maintenant vendredi, de nouvelles mesures se sont mises en place, comme par exemple la fermeture des bars et de certains lieux de divertissement, ainsi que de cinéma, des salles de sport, etc. La vie poursuit quand même à peu près son cours, les écoles restent ouvertes, les transports fonctionnent et nous sommes toujours libres de nos mouvements. Il y a quelques exceptions. Quelques écoles ont dû fermer avant les vacances scolaires, comme par exemple celle où va ma fille, qui est une école internationale britannique et où plusieurs enseignants se sont déclarés positifs. Ma fille est maintenant en isolement à la maison pour 14 jours. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et pour vous parler de cette situation et vous donner un aperçu de la vie à Singapour, je suis avec une amie de longue date qui s'appelle Big Tuen et qui est à Singapour depuis environ 16 ans avec son mari. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous étions à HEC tous ensemble dans la même promo avec son mari et le mien. Big Tuen est française d'origine vietnamienne, elle est née en France, elle a vécu aux États-Unis et en Malaisie. Nous évoquerons ensemble la stratégie que Singapour a employée pour contenir jusqu'à présent l'épidémie. En quoi cela est-il différent de ce qui se passe en France aujourd'hui ou dans les pays alentours? Est-ce que la nature même du gouvernement et de la population change la donne? Comment elle vit-elle cette crise ici? Et comment se projette-t-elle dans les années à venir en Asie? Et d'ailleurs, pourquoi est-elle ici? C'est un épisode riche en actualité que je vous propose et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Big Tuen.
Bonjour Viviane.
Ravie de t'avoir avec nous. Alors, nous sommes dans des périodes un peu troublées et je pense que c'est dans toutes nos têtes. On peut pas s'empêcher de penser au virus et à tout ce qui se passe en ce moment en France, à Singapour, en Asie, à la manière dont les gouvernements gèrent cette crise. Comment toi, tu te sens impactée dans ta vie quotidienne avec tes enfants, ton travail, ton mari? Comment ça t'affecte?
Alors, je pense qu'effectivement, les choses sont venues progressivement à Singapour. Donc aujourd'hui, 3 mois après le déclenchement de la crise, je suis en télétravail. Nos enfants ont eu leurs vacances avancées. Mon mari également travaille à moitié à la maison. D'un point de vue professionnel et scolairement, en fait, effectivement, nos vies ont été impactées. En revanche, d'un point de vue approvisionnement, d'un point de vue sortie, d'un point de vue vie au quotidien, à cause des mesures qui ont été prises très tôt par le gouvernement singapourien, l'essentiel a été préservé.
Il y a quand même eu des mouvements de panique. On a pu observer dans le supermarché des ruées sur le papier toilette, les nouilles instantanées, le riz. Est-ce que tu l'as vécu, ça?
Alors, effectivement, en l'occurrence, au moment où Singapour est passé en niveau orange, il y a eu effectivement une ruée sur les supermarchés. À l'époque, en fait, j'étais à Bangkok pour un tournoi de football. Et en fait, tout le groupe était en train de se poser des questions à savoir ce qu'il fallait ramener de Bangkok. Donc des gens se ruaient sur les masques, des gens pensaient ramener 20 kilos de riz à Singapour. Enfin, c'était la panique. Cela étant, c'est rapidement rentré dans l'ordre. En fait, le gouvernement a mis au point une communication qui était extrêmement proactive pour rassurer la population. Donc, la première chose qui a été faite, en fait, le premier ministre est apparu à la télévision, filmé dans un centre de logistique avec une tonne de nourriture derrière. Donc les gens se sont dit, bon, en fait, il y a un approvisionnement qui est en cours, etc. Donc avec un message extrêmement rassurant sur le fait que Singapour était capable de répondre à la demande de la population. Donc ça, c'était un premier message qui était très fort. Et le deuxième est qu'ils ont ensuite enchaîné avec des messages WhatsApp quotidiens pour rassurer la population sur les niveaux de stock, sur les niveaux de pénurie, les risques, etc. pour que tout le monde soit informé sans qu'il y ait des rumeurs qui se répandent sans être contrôlées par le gouvernement.
Ça fait 15 ans que vous vivez à Singapour, vous avez 3 enfants ici. Il y a eu plusieurs crises, notamment au niveau de la pollution avec les feux de forêt venant d'Indonésie, qu'on appelle ici le haze, qui ont aussi perturbé énormément la vie économique et la vie quotidienne de la population. Est-ce que tu penses que le gouvernement singapourien
à une bonne communication, à une bonne gestion des crises.
Alors, je crois que déjà, à titre individuel, les crises type haze sont beaucoup plus impactantes dans la vie quotidienne parce que l'air que vous respirez, ben, vous n'avez pas le choix, il faut bien faire avec. Et donc, en termes de qualité de vie, pour le coup, en fait, avoir un air qui est extrêmement pollué, qui a un impact sur la respiration, sur la santé, ça, vous ne pouvez pas y échapper. Et pour le coup, je pense qu'on a été tous extrêmement affectés pendant le mois et demi que cela a duré. Aujourd'hui, la crise du Covid-19, au final, comme je le disais plus tôt, au jour le jour, au quotidien, en fait, on est relativement peu impacté. On continue à sortir, on continue à pouvoir s'approvisionner, on continue à pouvoir sortir un petit peu, tout en faisant attention et en gardant nos distances. D'un point de vue qualité de vie, en fait, cela n'a rien à voir. Ensuite, d'un point de vue gouvernement, je pense que le gouvernement avait les manettes d'action qui étaient beaucoup plus nombreuses et élaborées, en fait, pour le Covid-19 que pour des situations comme le haze. Parce qu'à vrai dire, personne ne peut contrôler la direction, le sens du vent ou comment est-ce que d'autres gouvernements peuvent contrôler les feux de forêt. En fait, le gouvernement singapourien pouvait faire pression sur le gouvernement indonésien, mais il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire à court terme. Le Covid-19, ils font quand même beaucoup, beaucoup de choses pour s'assurer que la population à Singapour reste en sécurité.
En ce moment, il y a un confinement généralisé en France. On n'est pas encore là à Singapour. On essaye d'éviter, en fait, d'y arriver. Est-ce que tu as l'impression que la manière dont la population prend les choses est différente en France et à Singapour?
Je pense qu'il y a une contestation beaucoup plus faible des mesures prises par le gouvernement à Singapour. Donc, quoi que le gouvernement décide, je pense que les Singapouriens vont l'accepter et vont l'appliquer de manière beaucoup plus immédiate. J'allais dire, le système de contraintes est également beaucoup plus fort. Donc, typiquement, par exemple, il y avait un système de quarantaine sélective. Typiquement, si vous avez été à l'étranger, quand vous revenez à Singapour, vous devez faire 14 jours de quarantaine. Vous avez des officiers qui se présentent à votre domicile pour vérifier que vous êtes là à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous avez des systèmes de vidéoconférence pour vérifier que vous êtes bien chez vous. Tout cela fait que le système coercitif est bien plus important à Singapour. Typiquement, si vous êtes non-singapourien, vous allez être renvoyé chez vous si on vous attrape à ne pas suivre les règles. Et si vous êtes singapourien, vous pouvez aller en prison. Cela étant, de manière contrastée, en fait, à Singapour, bah, finalement, les contraintes sont bien moindres qu'en France en ce moment.
Oui, finalement, on a pu éviter le confinement total. Tu es d'origine vietnamienne et justement, j'aimerais te poser la question par rapport au Vietnam. Peut-être que tu pourras m'expliquer un petit peu pourquoi tu penses qu'au Vietnam, alors qu'il y avait très peu de cas et que le virus n'était pas encore aussi répandu qu'à Singapour, par exemple, le gouvernement a très tôt mis des mesures très restrictives, comme par exemple la fermeture des écoles.
Alors, je crois que le gouvernement vietnamien a très tôt pris conscience du risque du coronavirus à l'époque, avec un système hospitalier qui est bien moins performant que dans les pays développés type la France ou Singapour, et un contrôle de la population qui est bien moindre. Donc du coup, ils ont décidé très tôt en fait de fermer les écoles afin d'éviter le risque de propagation du virus. Cela étant, leur communication a été assez nuancée. Donc en fait, ils expliquaient qu'il n'y avait pas de cas, qu'il n'y avait pas de risque, qu'il n'y avait pas de problème, tout en fermant les écoles. Du coup, il y a eu une vraie défiance de la population par rapport en fait à la communication gouvernementale. Donc les gens ne croyaient plus en fait ce que disait le gouvernement, en se disant bon bah s'ils ferment les écoles, c'est bien qu'il y a un risque, c'est bien qu'il y a des cas, c'est juste que le gouvernement ne communique pas sur la maladie.
Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des enfants dans le monde, je crois, qui n'a pas école parce que les écoles sont fermées à cause de cette crise sanitaire. Ce n'est pas le cas à Singapour, et pourtant la pression des parents est montée d'un cran la semaine dernière, demandant à certaines écoles internationales de fermer en dépit des mesures demandées par le gouvernement. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses que le gouvernement ici préfère préserver la vie économique ?
Je crois que le gouvernement cherche à apporter une réponse graduelle à la propagation du virus. Donc typiquement, tant qu'ils peuvent garder les écoles et l'économie et les commerces et les entreprises ouvertes, ils le feront. Et la raison pour cela, c'est que tout simplement, en fait, dès que vous arrêtez les écoles, vous arrêtez donc les entreprises. Et du coup, tout le tissu économique est à l'arrêt, avec des conséquences graves pour la population, sachant qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'arrêt. Enfin, si vous arrêtez de travailler, vous ne percevez plus votre salaire à Singapour. Donc je pense que le gouvernement essaie vraiment de peser le risque et l'impact économique pour la population que cela peut avoir. Je pense qu'accessoirement, sur les dernières semaines, l'un des intérêts que le gouvernement singapourien tient à prendre en compte, c'est le fait qu'en fait un certain nombre de régions vont probablement se remettre à se développer. Donc typiquement la Chine vraisemblablement va sortir de son arrêt économique dans les semaines à venir. Et du coup en fait Singapour espère bien être pris dans ce relais de croissance pour pouvoir rebondir derrière. Donc arrêter toute l'économie aujourd'hui, ça serait se priver de ce relais de croissance.
On sent aujourd'hui que Singapour ferme de plus en plus ses frontières. Au tout début de l'épidémie, quand il n'y avait que la Chine qui était atteinte et Hong Kong, Singapour était le troisième pays dans l'ordre du nombre d'infectés dans le monde. Et la France n'était pas du tout concernée encore. Et la propagation a été contenue avec des mesures, comme tu dis, localisées, de renforcement, de recherche des contacts pour essayer d'endiguer l'épidémie très tôt. Et ça a été assez fructueux puisqu'on a pu endiguer et contrôler en tout cas la propagation de l'épidémie dans Singapour avec seulement de petits clusters qui se formaient. Maintenant que la propagation est plus forte, le gouvernement tend à refermer ses frontières parce que le danger vient de l'extérieur maintenant que l'épicentre se situe plutôt en Europe.
Oui.
Est-ce que tu ressens cette contraction? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une peur de l'étranger, une peur de tous ces expats, parce qu'il y a énormément d'expatriés à Singapour? Récemment, dans les derniers chiffres, dans les derniers jours, il y a eu un pic, et ces pics-là sont dus notamment aux cas qu'on dit importés, donc les cas qui reviennent de France, d'Italie, d'Angleterre. Comment tu penses que la population locale considérée?
C'est sûr que la propagation de du coronavirus, en fait, s'est fait en deux phases. Une première phase, effectivement, où ça venait de la Chine. Et maintenant, effectivement, que l'ensemble des pays sont, autour de nous sont contaminés. On est arrivé dans une phase où, en fait, le virus peut venir plus ou moins de n'importe où. Pour moi, c'est pas tant les Singapouriens qui deviennent, entre guillemets, paranoïaques ou craignent les étrangers. Je pense que de manière générale, l'ensemble des personnes qui habitent à Singapour réalisent de plus en plus le risque, en fait, qui vient de l'extérieur. Donc, c'est pas vraiment les Singapouriens qui pensent que. Typiquement, nous, nos enfants sont à l'école internationale, avec des parents qui viennent de tous horizons et qui voyagent beaucoup. C'est sûr que la question qui se pose aujourd'hui est beaucoup plus forte, parce que les parents voyagent pour le travail, ils reviennent, ils peuvent être contaminés, ils peuvent contaminer leurs enfants, qui eux-mêmes peuvent contaminer les enfants à l'école, qui eux-mêmes ensuite répandent l'épidémie. Donc, le risque, parce qu'il vient maintenant il peut venir un peu de n'importe quel pays, devient beaucoup plus fort que lorsqu'il était contenu sur un pays particulier qui était la Chine.
Et dans l'école de tes enfants, il y a eu des cas?
Alors, il y a eu des parents qui ont été testés positifs. Donc, en l'occurrence, trois parents ont été testés sur deux campus différents. Et donc, du coup, le lendemain, l'école a avancé ses vacances pour permettre effectivement, en fait, la quarantaine de 14 jours. Voir un peu la crise rentrer en sous contrôle. Alors, en l'occurrence, effectivement, donc sur cette dernière semaine, à peu près 75% des cas, en fait, étaient importés. Donc, c'est vrai que, du coup, la crise est vraiment, s'est vraiment déplacée d'un problème qui était domestique, interne à Singapour, à un problème qui était importé avec un contrôle des frontières qui était beaucoup plus important. Mais, à vrai dire, en tant qu'habitant de Singapour, on a tous intérêt à éviter, effectivement, la contagion importée.
Il y a d'ailleurs des cas aussi de personnes qui se font refouler à la frontière ou qui, en ayant bravé l'interdiction de rester à la maison, se font renvoyer.
Et c'est là tout le débat entre liberté individuelle et intérêt collectif. C'est une question qui est posée aujourd'hui à travers les différents pays, les différentes règles de confinement, etc. À Singapour, comme c'est du confinement sélectif, vous êtes confiné chez vous à partir du moment où vous représentez un risque. Toutes les personnes qui enfreignent les règles sont effectivement, si elles ne sont pas singapouriennes, sont renvoyées chez elles. C'est le prix à payer pour que l'ensemble des personnes puissent continuer à circuler librement, plus ou moins librement à Singapour.
Et il y a aussi, en parlant de liberté individuelle, une application qui est fortement recommandée, ouais. Mise en place par le gouvernement, qui permet de tracer les faits et gestes de chacun tout en ne pas enregistrant
les données personnelles,
soi-disant, ni la localisation. Est-ce que tu penses que ça va être efficace? Est-ce que les gens vont télécharger cette application et l'utiliser?
J'avoue que ça fait partie des débats. Je veux dire, jusqu'où peut aller, en fait, l'intérêt collectif versus la liberté individuelle. À titre personnel, je ne l'ai pas téléchargé parce que je trouve ça un petit peu dérangeant, cette notion de pouvoir partager toutes ces données de déplacement avec une entité tierce, sans maîtriser, en fait, la durée et l'étendue du partage d'informations. Cela étant, je crois que aux dernières nouvelles, enfin, j'ai reçu un SMS qui m'a expliqué que 500 000 personnes s'étaient déjà inscrites. C'est quelque chose qui est répandu en Corée. Indubitablement, cela a démontré ses preuves en termes de qualité, de la traçabilité et de l'identification des personnes à risque. Après, je pense que chacun fait ses choix personnels. Vous avez l'option de vous y inscrire. Ce n'est pas obligatoire à ce stade. Nous, à titre personnel, nous avons refusé de nous y inscrire.
Au début, l'épidémie venait de Chine. C'était clairement identifié. Il y a eu du racisme anti-chinois en France et dans d'autres pays. Est-ce que tu as ressenti pas toi personnellement, mais est-ce que tu penses qu'à Singapour, ce racisme anti-chinois s'est manifesté contre les Chinois mainland, les Chinois de Chine continentale? Parce qu'à Singapour, il y a quand même de la population d'origine chinoise, mais ce sont les Singapouriens d'origine chinoise. Est-ce que ceux-ci ont eu un mépris, un racisme envers les Chinois de Chine continentale?
J'ai pas tellement été témoin de racisme envers les Chinois mainland. Ce que je trouve assez drôle, en revanche, c'est que je connais un certain nombre de mainland Chinese. Ils ont été plus paranoïaques que les autres en termes de mettre des masques, s'approvisionner en gel hydroalcoolique, implémenter leur droit de ne pas rendre visite à des gens qui ont été à l'étranger pendant 14 jours, etc. Je crois qu'ils ont été très sensibilisés à un certain nombre de crises sanitaires précédentes, et donc du coup, ils sont beaucoup plus... Ils ont implémenté les règles, de précaution beaucoup, de manière beaucoup plus forte.
Alors, le fait d'être expatrié et d'être loin de sa famille et loin de ses amis, ça peut être difficile en temps de crise. Comment tu le ressens, toi?
Alors, ça fait 16 ans que je vis à Singapour, donc loin des miens. On a l'habitude de se parler par Skype, de se voir deux fois par an. Donc ça, les choses ne changent pas. Je dirais qu'avec le confinement, finalement, les distances se sont réduites. Mais de manière ironique, en fait, j'ai accès à ma famille, à mes frères, mes sœurs, mes parents, de manière beaucoup plus facile, puisque comme ils sont coincés chez eux, on Skype de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus longue qu'avant, où les uns et les autres avaient des activités, des choses à les faire, etc. Là, par exemple, ce week-end, c'est la première fois qu'on a fait un déjeuner de famille où l'ensemble des frères et sœurs et mes parents étaient présents sur Skype à des endroits différents. Donc, on a Skypé de 4 endroits différents pour pouvoir déjeuner ensemble, et c'était fort sympathique. Le temps s'étire lorsqu'on est en confinement, donc on prend le temps.
Quand on est à Singapour, ce qu'on aime faire, c'est voyager. C'est quand même un endroit exceptionnel pour pouvoir voyager en Asie du Sud-Est, faire des petits week-ends à droite à gauche, voyager très régulièrement ou voyager pour des raisons professionnelles. Là, tout est bloqué, puisque nous, en tant que résidents singapouriens, si maintenant nous allons dans un pays de l'ASEAN ou si nous allons en France, au retour, nous serions confinés. Donc, tout est bloqué au niveau des voyages. Est-ce que toi, ça a perturbé tes plans? Est-ce que tu avais prévu de partir en vacances, de voyager pour le travail?
Alors oui, de toute façon, tous les voyages sont maintenant arrêtés, sauf cas de force majeure. Singapour recommande à ses citoyens et ses résidents permanents de ne pas quitter Singapour. Donc de toute façon, les vols sont annulés. Ça impacte complètement les vacances, les voyages professionnels. Après, c'est l'occasion de redécouvrir... À nouveau, nous ne sommes pas en confinement, hein, donc c'est l'occasion de redécouvrir, en fait, des endroits de Singapour que nous avions survolés précédemment.
Pour l'instant, nous ne sommes pas en confinement. J'espère que ça va durer. Qu'est-ce qui t'a emmené à Singapour, en fait, toi et ton mari? Qu'est-ce qui vous a emmené à Singapour, hein?
Alors nous, notre histoire est un peu particulière. On est venu à Singapour avec l'idée d'apprendre le chinois. Il y a 16 ans de cela, nous souhaitions, en fait, déménager en Chine, à Shanghai. Et nous n'avions pas pu transférer là-bas à cause de la langue, donc on s'était dit, qu'à cela ne tienne, nous allons déménager à Singapour, apprendre le mandarin, et ensuite on partira en Chine. Et en fait, on est toujours là 15 ans plus tard, parce qu'en fait on est incapable de travailler en chinois, donc on est resté à Singapour.
Donc c'est toujours à la case apprentissage,
ouais, exactement.
Du mandarin. Exactement. Donc vos trois enfants sont nés ici, vous les élevez dans un environnement français, international, singapourien.
On est toujours fait de... On est une somme d'expériences. À la fois mon mari et moi-même, en fait, on a grandi à l'étranger, scolarisé dans des systèmes internationaux, avec les cours par correspondance du CNED faits à la maison par nos parents, par nos mères, en l'occurrence. Et donc, en fait, on a répliqué le même système avec nos enfants. Pour nous, en fait, c'était important que nos enfants puissent grandir dans un environnement qui était réellement international, rencontrer des gens de nationalités différentes, de cultures différentes, se faire face à la rencontre des autres. Et en fait, pour nous, donc l'école française était finalement raté une partie de l'expérience à l'international. Donc on a voulu en fait les mettre au lycée international pour qu'ils puissent rencontrer des enfants qui viennent de partout, ce qui est le cas aujourd'hui. Sans pour autant renoncer en fait à la partie française. Et donc en fait, on fait suivre par correspondance les cours du CNED à la maison.
Donc c'est vous qui le faites tous les week-ends?
Alors on fait effectivement avec nos trois enfants, on leur fait faire le CNED à la maison. Alors ça ne se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur à chaque fois, mais plutôt dans le sang et les larmes. Mais en revanche, je pense que si on prend un tout petit peu de recul, je pense que à la fois mon mari et moi, en fait, on prend un certain, sans aller jusqu'à dire un certain plaisir, mais une certaine fierté en fait à apprendre une langue, enfin notre langue maternelle à nos enfants. Et ça nous fait plaisir en fait de voir que ils apprennent la langue correctement, qu'ils prennent plaisir à certains textes en français, etc. Donc ça fait partie un petit peu... C'est un projet familial, je pense, et en fait, ça nous fait plaisir de leur apprendre à titre... Enfin, que ce soit nous qui leur apprenions, en fait, le français.
Mais qu'en est-il de tes origines vietnamiennes? Est-ce que tu as essayé de reconnecter avec cette partie-là de toi-même?
Alors, c'est compliqué. Alors, en fait, sur la partie vietnamienne, en fait, donc je suis une vietnamienne de deuxième degré, puisque donc, je suis née en France. Mes parents ont reconnecté avec le Vietnam il y a quelques années. Donc, en fait, ils ont construit une maison au Vietnam. Ils y passent quelques mois par an. Je crois que ça nous a permis, effectivement, de nous rendre de manière beaucoup plus régulière au Vietnam. Je pense que je suis consciente qu'il y a une sorte de décalage entre avoir des origines vietnamiennes et être pleinement vietnamien. Et je pense que la langue fait partie des choses qui font partie du ciment culturel, ainsi qu'une expérience en fait dans le pays. Je me sens d'origine vietnamienne, je me sens pas vraiment vietnamienne. Je pense que ça m'a longtemps travaillé, en particulier quand j'habitais en France, parce qu'effectivement les gens me demandaient d'où je venais. Par définition, ils me demandaient pas si j'étais française. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis assez en paix avec moi-même là-dessus. En fait, habiter en Asie, à Singapour en particulier, où vous avez beaucoup d'Asiatiques qui viennent de différents pays et qui se sentent, par exemple, typiquement les Chinois d'origine, enfin, les Singapouriens d'origine chinoise ou les Singapouriens d'origine malaise se sentent chinois et malais, mais sans l'être réellement. Ça participe finalement à la prise de conscience qu'on est d'une certaine origine sans l'être complètement et que là, il y a de la richesse, en fait, dans le mélange et dans la diversité des origines.
Est-ce que tu penses que tes enfants ont intégré cette diversité dans leur identité, dans leurs origines?
Alors je crois que ce qui est intéressant, en fait, je me suis rendu compte que typiquement, par exemple, à Singapour, j'avais des points communs avec d'autres personnes qui avaient d'autres origines complètement différentes. Par exemple, on a des très bons amis qui sont d'origine pakistanaise, qui ont habité, qui ont fui le Koweït et qui maintenant sont installés aux États-Unis. Dans cette histoire de partir de chez soi, de tout redémarrer, etc. Il y a une histoire commune, il y a des valeurs communes, il y a des réflexes communs qu'on partage en rigolant, et l'origine n'est qu'une partie, en fait, de ce qui nous définit. Il y a des histoires qui peuvent être, en fait, répliquées à travers le monde, qui se ressemblent. Et du coup, en fait, à Singapour, vous avez beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, pas déracinées, mais qui ont des racines qui sont très courtes. Et du coup, il y a une aisance, en fait, à être avec des personnes qui ont ce type d'histoire commune. Et donc, les enfants étant à l'école internationale, par définition, sont avec des enfants qui viennent de plein de pays, qui sont typiquement d'une ou deux générations, en fait, qui sont nés à l'étranger et qui ont grandi dans un environnement qui est extrêmement international, avec une identité nationale qui est peut-être moins forte. Du coup, pour eux, c'est très naturel. C'est pas une question dissocier l'origine et la nationalité. C'est quelque chose d'évident pour eux. Ce qu'il est peut-être moins pour nous, notre génération, typiquement.
Oui, ils ont la chance de pouvoir s'identifier avec d'autres enfants d'expats ou d'immigrés, on va dire, peut-être des expats, anciens immigrés devenus expats, enfin, peut-être que pour tes parents, pour nos parents, ils se sentaient immigrés et pas expats, alors que nous qui revenons en Asie, nous revenons en puissance comme des expats, mais du coup, nos enfants ici sont enfants d'expats et partagent ces valeurs-là, avec une histoire commune d'immigration successive.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce que je trouve vraiment sympa pour nos enfants, c'est qu'en fait, quand ils regardent quelqu'un, ils vont pas avoir de préjugés sur le pays d'origine ou le pays ou la nationalité de la personne. Donc ils ont tellement d'amis qui sont indiens mais avec des passeports britanniques, australiens, américains. Ils ont tellement d'amis qui sont américains mais qui sont d'origine japonaise ou chinoise. Donc pour eux, c'est un espèce de melting pot général, et du coup ils ont absolument aucun préjugé, en fait, si tu es jaune, tu es forcément une banane, ou si tu es... C'est très... Ils sont colorblind. Ils n'ont pas de préjugés raciaux.
Ça fait maintenant 16 ans que vous êtes à Singapour. Est-ce que tu dirais que vous avez fait pousser vos racines? Tu parlais de racines courtes tout à l'heure, mais est-ce que votre maison est ici? Vous êtes enracinée?
La réponse évolue. Il y a quelques années, on s'était dit qu'on se verrait bien rester de manière permanente à Singapour. Je crois qu'en fait, avec le temps, cette réponse a changé. Avec l'âge, j'imagine, il y a un certain nombre de notions qui reviennent un peu plus fortes, l'attachement culturel. Il y a un appel du pays, je ne saurais pas le définir, mais effectivement, typiquement là aujourd'hui, on envisagerait plutôt de prendre notre retraite en France. Mais c'est vrai que cette notion qui nous semblait incongrue il y a quelques années, finalement, elle ne semble plus complètement absurde. Mais je pense qu'avant ça, dans tous les cas, on a envie de voir d'autres pays. Avec mon mari, on partage cette idée qu'on aimerait vivre le plus de vie possible dans celle-ci. Et ça passe également par découvrir d'autres pays, d'autres cultures, voir autre chose. Et donc je pense que avant de poser nos racines définitivement, on a envie de découvrir autre chose, voir d'autres pays et puis vivre d'autres expériences.
Alors, vu depuis la France, on dit souvent que Singapour est un état fort, autoritaire. Il se trouve que là, en temps de crise, en temps de crise sanitaire avec ce coronavirus, on est bien content que le gouvernement soit écouté, que la population soit disciplinée, que les règles soient strictes et que l'épidémie puisse être endiguée rapidement à Singapour. En revanche, on peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même un système qui a ses limites. Comment tu gères ce paradoxe? Comment tu interprètes tout ça?
Je crois qu'aujourd'hui, on vit une épreuve absolument exceptionnelle. Le fait que Singapour ait vécu un certain nombre de crises sanitaires précédemment, donc ils ont implémenté un certain nombre de mesures afin de répondre à la prochaine crise sanitaire, fait qu'en fait, ils ont été extrêmement rapides et proactifs à mettre en place un certain nombre de mesures. Pour autant, je veux dire, un certain nombre de ces comportements sont liés en fait au fait que le même parti politique a été en place depuis 40-50 ans et qu'il y a une vraie acceptation du fait qu'il y a un parti dominant à Singapour. Et donc, quelque part, le prix de cette stabilité, de cette discipline est le fait qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'alternative politique acceptable par la population. Et ça a un impact effectivement dans un rythme plus normal, entre guillemets, d'expression de dissension, il y a moins d'avis contraires. Et ça, c'est vrai au niveau du gouvernement, c'est également vrai au niveau des entreprises. Ça reste une culture qui est extrêmement hiérarchique, où la personne la plus senior généralement a raison et les autres ont plus de mal, en fait, à exprimer leur désaccord. Donc, effectivement, c'est un système qui est très cohérent, qui marche très bien en temps de crise, qui marche comme un seul homme. Le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, vous avez moins d'avis contraires, vous avez moins d'avis créatifs qui s'expriment, vous avez un modèle de réussite sociale et économique, vous avez une norme.
Il se trouve que là, en 2020, on est dans l'année des élections générales à Singapour. Est-ce que tu penses que certaines décisions au niveau des restrictions prises sont liées à cette élection, ou en tout cas, qu'elles sont de nature politique?
Je pense que le gouvernement est en train de gérer la crise de la manière la plus efficace et efficiente possible. Je pense qu'il n'y a pas d'agenda politique derrière la gestion de la crise. Cela étant, ils ont une élection générale qui doit avoir lieu avant avril 2021. Et je pense que le timing, l'échéance, en fait, de la tenue de ces élections est profondément, mûrement réfléchi pour optimiser, en fait, l'impact positif que la gestion de cette crise a sur l'opinion publique. Donc, en fait, les Singapouriens sont heureux de la façon dont le gouvernement a géré cette crise. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur cette question-là. Singapour s'en sort très bien par rapport à d'autres pays dans la région et dans le monde. Et donc, la population singapourienne est reconnaissante à son gouvernement d'avoir su gérer ça de manière aussi proactive et efficace. Et du coup, ça, c'est un impact sur l'opinion du parti politique. Les élections vont vraisemblablement se tenir le plus tôt possible afin de bénéficier de cette aura positif que la population a, qui n'est pas forcément toujours le cas, parce qu'il y a toujours quand même de manière sous-jacente d'une part d'une certaine population, une remise en cause du parti monolithique, de la pensée majoritaire, etc. Donc il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas complètement d'accord avec ça, mais je pense que ça va être malgré tout noyé dans la satisfaction et le soulagement de la population vis-à-vis de la gestion de la crise.
Merci Victuaine. Est-ce que pour finir, tu as un message à faire passer aux Français qui sont confinés et qui nous écoutent?
Profitez-en pour rattraper tous les projets domestiques, les envies de lecture et les... Oui, et puis les projets avec les enfants que vous pouvez avoir, parce qu'effectivement, ce temps-là, il est précieux et il faut en profiter.
Merci beaucoup Victuaine pour ton témoignage et pour cet épisode spécial en plein milieu de la crise du coronavirus depuis Singapour. J'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux @banana.split.project. Mettez-nous des étoiles, partagez cet épisode autour de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.